Matthieu 28, j'aimerais revenir sur ces marques d'un disciple. Et dimanche matin, j'avais mentionné trois. Et ces marques, on peut les prendre directement des passages qui parle de la mission que Jésus donne à son Église. Parce qu'après sa mort, sa résurrection, il a dit, comme le Père m'a envoyé, il a dit, moi je vous envoie. C'est très très clair à la fin de Matthieu, Marc, Luc, Jean et au début des Actes, que Jésus va mandater ses disciples. Et la mission qu'il leur donne, c'est de faire quoi? D'autres disciples. Pas des disciples d'eux-mêmes, mais des disciples de lui-même, des disciples de Jésus-Christ. Et donc, vous pouvez vous-même faire une étude de ces passages, parce que chaque passage est un peu différent et ajoute au tableau, si on peut l'imaginer comme ça, un peu plus de couleurs ou un peu plus de détails. Et nous trouvons dans ces passages où Jésus va mandater son Église, des marques de ce qu'est un disciple, pour qu'on sache si nous sommes un disciple, mais aussi si nous avons fait des disciples. Alors, quelles sont ces marques qui ont été mentionnées dimanche pendant l'étude? Il y en a au moins un que vous devez savoir, j'espère. Ok. Il y a le... Bon, on va arriver à ça. Mais il y a d'abord le baptême, on a dit. Hein. Mais avant le baptême, on avait parlé de la foi et de la repentance. Ça serait bien un jour de faire toute une étude sur la foi, ce qu'est la foi et ce qu'est la repentance. Et puis, troisièmement, on a parlé du baptême. Et on avait dit que la différence entre le baptême et les deux autres, c'est que les deux premières sont essentielles pour être disciple à Jésus-Christ. Mais le baptême est quelque chose qui suit, parce que Jésus dit, faites... Bon, ici, en Matthieu, on peut lire. Verset 19, 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et dans le grec, on ne le voit pas dans le français, mais dans le grec, les pronoms sont masculins, féminins, pluriel, singulier. Et disciple et masculin, je crois, et nation et féminin, comme en français. Mais les, c'est dans le masculin. Donc, c'est clair que Jésus ne dit pas baptiser les nations. Hein, faites de toutes les nations des disciples et baptiser les nations. C'est masculin comme le mot disciple. Donc, il est en train de dire faites de toutes ces nations des disciples, les baptisants, c'est-à-dire ceux parmi ces nations qui sont des vrais disciples. C'est eux qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, ce que Geneviève a mentionné, il faut faire quoi? Verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis la promesse, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la fin du monde. Donc, il y a la foi, il y a la repentance, enfin oui, la repentance, il y a le baptême. Et puis, Matthieu 28, 19, 20, il y a aussi, verset 20, il faut Enseignez-leur, il dit, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il faut leur enseigner. Il faut leur enseigner. Donc ça, c'est la mission qui concerne les disciples. On ne les abandonne pas après les avoir baptisés. On dit, ah, c'est bon, vous êtes baptisés, on va trouver l'autre. On est censé entourer, encourager, encadrer et surtout enseigner. Vous voyez ce mot, enseigner. C'est un verbe, le nom de, ce même, de cette même racine, c'est le mot didaké. Vous connaissez peut-être ce mot, vous avez peut-être déjà entendu le mot didaké. Il est souvent traduit par doctrine dans nos Bibles françaises. Et ça, c'est le terme verbal de doctrine. Et en français, nous avons une forme verbale du nom doctrine. C'est quoi? On peut prendre doctrine, on change en verbe, et on a... Voilà. On a endoctriné. C'est ce qu'il faut faire. Il faut leur donner cette doctrine. Alors souvent en français, on dit endoctriné, ça a une connotation... négative, mais parce que on veut quand même, quand on pense à endoctriner, on veut changer leur mentalité et changer leurs actions, changer leur caractère et puis changer même leurs pratiques. Mais Jésus le dit ici, hein, il faut les enseigner à observer. Donc c'est pas simplement une question d'information ici, c'est une question de vie et d'action. Il y a un changement, en fait, de leur comportement. Donc, c'est le mot grec signifie l'enseignement, avec ce but d'influencer dans le cadre formel ou informel. Donc, c'est ce qu'on veut faire aux disciples. On veut les enseigner, on veut les persuader avec cet enseignement, d'observer. Ce qui veut dire, pour le disciple, s'il a la foi, s'il a la repentance, s'il accepte d'être baptisé, un disciple va aussi accepter d'être... Voilà, il va accepter d'être endoctriné. Et que cette doctrine, cet enseignement, transforme sa conduite. Il a un nouveau maître. Et ça, c'est même le mot de disciple. Un disciple, hein, c'est quelqu'un qui suit, qui apprend de son maître, mais qui se soumet à son maître. On parle de la maîtresse et du maître ici en France, mais le maître à l'époque d'un disciple, c'était vraiment quelqu'un qui avait une autorité presque absolue sur ses élèves. Et la différence entre un maître et un esclave, et un maître et un disciple, c'est qu'un maître avec son esclave, bon, il se servait de lui, mais il n'avait rien à lui enseigner. Mais un maître avec un disciple, il était là quand même pour lui donner son savoir-faire. Hein, donc s'il était pêcheur, pour enseigner comment pêcher. S'il était charpentier, pour enseigner à son disciple comment être un bon charpentier. Donc il voulait communiquer quelque chose, mais quand même, le disciple devait obéir. Et nous devons nous soumettre à tout ce que nous dit notre maître. Alors, pour ce soir, on va nous borner quand même à cette question. C'est quoi qu'il faut observer? C'est tout ce que... Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que je vous ai prescrit. Alors, c'est quoi, quand vous entendez cette phrase, tout ce que je vous ai prescrit, sachant que c'est Jésus qui parle, à quoi pensez-vous? Pardon? Ok. Ok, au royaume de Dieu. Oui, d'accord, donc on pense à certaines choses que Jésus a... C'est-à-dire, mais quelles sont les... J'ai mal posé la question. Quelles sont les limites de ce que Jésus
leur a enseigné.
Est-ce que vous avez vu des Bibles où les paroles de Jésus sont imprimées en rouge? Vous avez vu ça? C'était populaire à une époque. Je ne vois pas trop souvent maintenant. OK. Ça existe sur les portables. Donc, quand Jésus dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit », est-ce qu'il parle de tout ce qui est en rouge dans les évangiles? C'est-à-dire, tout ce que Jésus a dit là, le sermon sur la montagne, les paraboles, etc. Ou est-ce qu'éventuellement il parle de même plus que cela? Ok. Ok, soumettre à sa seigneurie. Ok. Oui, on voit déjà que vous ressentez ce qu'est la bonne réponse. Que ce n'est pas limité aux paroles proprement indiques qui sont sorties de la bouche de Jésus pendant qu'il était sur terre. Mais nous avons des preuves pour cela. Moi, je suggère qu'à côté de cette expression, tout ce que je vous ai prescrit, si vous avez la place dans la marche, que vous mettez la référence 1 Corinthiens 14, 37. 1 Corinthiens 14, 37. Là, juste à côté de tout ce que je vous ai prescrit. Et après, on peut le chercher. 1 Corinthiens 14, 37. Est-ce que quelqu'un peut le lire?
Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur.
Voilà. Qu'il reconnaisse que ce que je... Et c'est qui le « je » ici? Non?
C'est Paul.
C'est l'apôtre Paul. Donc, mais notez ce qu'il dit, hein. C'est fort, très très fort. Ce que je vous écris est quoi? Un commandement du
Seigneur.
Et c'est qui le Seigneur? C'est Jésus-Christ, ouais. Donc, quand les apôtres ont écrit leur lettre, ils étaient conscients que ce qu'ils écrivaient était les commandements du Seigneur. Ils écrivaient au nom même de Jésus-Christ. Et ils étaient conscients de l'autorité qui existait dans leurs écrits. Trouvez maintenant 1 Thessaloniciens. On va juste regarder deux versets, un dans 1 Thessaloniciens et l'autre dans 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, 2. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 2.
Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus.
Voilà. Encore des préceptes, donc des choses à obéir, que nous vous avons donné, donc ça vient de nous, hein, mais on l'a fait de la part du Seigneur, et là c'est spécifié même, Seigneur Jésus. Donc on voit quand Jésus dit, hein, tout ce que je vous ai prescrit, ça inclut tout ce que Paul va prescrire. Et là, il dit nous, hein, il parle de la compagnie plus large même que lui-même. Regardez 2 Thessaloniciens, 3, 6. Quelqu'un peut lire ça? 2 Thessaloniciens 3 et verset 6. Oui, Joseph.
Nous recommandons, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de toute face qui vit dans le désordre et non selon la instruction que vous avez reçue de nous.
Voilà, vous voyez, c'est très fort, hein. On dit ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Ben, la même chose qu'avant. Que nous parlons dans son nom. Et donc, vous voyez, ils sont conscients de l'autorité parce qu'ils disent, il faut donc vous éloigner maintenant de tout frère. Il y a une séparation biblique même entre les frères en Christ, qui est parfois nécessaire, s'ils vivent dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous, dans sa première lettre. Hein, voilà, ça c'est à prendre donc comme un commandement de Christ, même si c'est donné par les apôtres. Et c'est l'une des choses qu'un disciple doit apprendre à obéir et respecter. Alors, pour la même idée, puisqu'on est en 2 Thessaloniciens, regardez chapitre 3 et verset 12. Quelqu'un peut lire ça? Voilà, encore la même idée. On veut les exhorter par le Seigneur Jésus-Christ. Ça vient avec beaucoup d'autorité. Donc, comme a dit le frère Joseph, hein, l'Écriture doit être considérée comme un tout. Elle est soufflée par le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Hein, donc, on pourrait même simplement se baser sur la doctrine de l'inspiration. Et le fait que l'Esprit Saint est appelé l'Esprit de Christ. Et par ce fait même, savoir que Genèse, Exode, Lévitique, jusqu'à Apocalypse, c'est l'Esprit de Jésus qui l'a inspiré. Et donc la Bible, dans sa totalité, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Saint-Esprit, c'est la parole aussi du Fils. Et puis, deux versets en Actes. Vous n'avez pas besoin de les chercher, mais si vous prenez des notes, vous pouvez noter ces deux références pour les comparer. Actes 2, 42, un verset qui est assez connu, parce que ça part de l'Église, et la Bible dit de l'Église qu'elle persévérait dans quatre choses. Est-ce qu'on se souvient? Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Mais la première chose, c'est l'enseignement des apôtres. D'accord ? Elle est appelée là l'enseignement des apôtres. En actes 20 et 27, elle est appelée le conseil de Dieu. Hein? Donc à côté de cette phrase en 2.42, l'enseignement des apôtres, vous pouvez mettre 20.27, où Paul dit aux anciens d'Éphèse, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Donc la Bible est dans son intégralité, du début à la fin, à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les commandements de Christ et inspirés par l'Esprit. Donc, nous devons enseigner quoi aux nouveaux disciples? Tout le conseil de Dieu, comme Paul a dit. Comme il fait en Éphèse, il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est ce qu'on doit faire avec les disciples. Tout, même les endroits qui sont moins populaires ou plus difficiles. Voilà, il faut rien cacher. Il ne faut rien cacher. Et donc, juste pour changer de point de vue et regarder la même phrase du langue de celui ou de celle qui devient disciple, qu'est-ce que nous, en tant que disciples, on doit faire? Si nous sommes vraiment disciples de Jésus-Christ, la foi, il y a la repentance, il y a le baptême, oui, mais maintenant, c'est quoi? Il faut, si on va m'enseigner tout, moi je dois le recevoir. Comme Paul dit aux Corinthiens de l'Évangile. je vous ai enseigné l'évangile que vous avez reçu. Et donc, chaque fois que la Bible nous est donnée, il faut la recevoir. Tout. Et c'est très facile, à cause de nos personnalités, à cause de notre passé, à cause de notre culture, etc., de passer par-dessus certaines parties de la Bible. Et de ne pas vouloir trop y réfléchir. Mais un disciple, il ne peut pas... La Bible n'est pas un buffet, hein, où on met de la viande, on met des œufs, on met des légumes, et on met des desserts, et puis, hein, comme dimanche, hein, tout était là, mais on pouvait prendre ce qu'on voulait. Non, la Bible, c'est comme un repas où on nous sert plat après plat, et il faut tout manger, il faut tout prendre. Et mon père disait, parfois dans la lecture de la Bible, il y a des endroits où c'est comme la crème glace, il utilise cette expression. Et parfois, c'est des choses qui sont plus difficiles à digérer, mais tout est bon pour moi. Et c'est pour ça qu'un disciple doit tout lire, il doit lire toute la Bible. Vous pouvez pas vous borner à certains psaumes ou quelques évangiles. Il faut lire tout le conseil de Dieu et tout recevoir. Donc que Dieu nous aide à être de vrais disciples de Jésus-Christ et de démontrer par notre soumission et notre désir de tout accepter. On ne peut pas sécher le cours parfois. On va tout recevoir ce que notre maître a nous enseigné, car c'est pour notre bien, hein? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Mais utile pour qui? Pour nous. Hein? Pour enseigner. Enseignez-nous. Pour convaincre. Mais qui? Nous. Pour corriger. Nous. Et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Et donc... Dis au Seigneur, demain matin, avant de lire, Seigneur, je l'accepte. Avant de lire, je l'accepte. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Je veux être